Bienvenue dans le débat. Le 11 juin 1987, Margaret Thatcher remporte l'une des victoires électorales les plus écrasantes du XXe siècle.
Avec 376 sièges aux communes, oui. Une majorité historique.
Exactement. Et pourtant, à peine 3 ans plus tard, cette même dirigeante est chassée du pouvoir, politiquement poignardée par ses propres ministres. Ce qui nous amène à notre question centrale aujourd'hui.
Tout à fait.
Ce troisième mandat consacre-t-il le triomphe absolu du thatchérisme ou bien s'agit-il d'une victoire de façade, une illusion dont les fractures portaient déjà les germes de sa chute?
Moi, j'affirme que le système électoral a totalement masqué un pays brisé, ce qui a poussé la première ministre vers une hubris fatale.
Et moi, je soutiens l'inverse. Je vois pourquoi vous pensez cela, mais laissez-moi vous donner une perspective différente. Pour moi, 1987 est la validation brillante et structurelle d'une redéfinition totale de l'échiquier politique britannique.
Une validation totale, hein ?
Oui, si on regarde les faits, on a 42,2% des suffrages et une majorité de plus de 100 députés. Ce n'est pas un simple hasard électoral, c'est le fruit d'un succès économique indéniable.
Sur le papier, les chiffres sont impressionnants, c'est vrai.
Et dans la réalité aussi. Le Big Bang financier de 1986, la dérégulation de la City, tout ça a créé un sentiment de prospérité incroyable. Une toute nouvelle classe de propriétaires et d'actionnaires a vu le jour dans le sud de l'Angleterre et ils ont voté massivement pour elle.
Je l'aborde d'une manière différente, disons. Si on regarde au-delà de cette illusion de toute puissance, on voit la machine conservatrice frôler la panique juste avant le vote.
Ah, vous parlez de ce fameux jeudi.
Le Wobbly Thursday, exactement. Le jeudi du flottement. Un sondage inattendu montrait le Labour réduire dangereusement l'écart. Et surtout, il faut comprendre la cruauté du scrutin majoritaire britannique pour analyser cette victoire.
Le système uninominal à un tour, oui.
Voilà. L'alliance entre libéraux et sociaux-démocrates a récolté près de 25% des voix, mais s'est retrouvée écrasée, avec seulement 20 élus. Ce système gonfle artificiellement le pouvoir d'un vote concentré. Ce n'était pas un plébiscite unanime, c'était un succès localisé, mécaniquement amplifié.
Je comprends l'argument mathématique. Mais l'autorité de Thatcher ne venait pas que du mode de scrutin. Elle s'était forgée par des épreuves colossales. La victoire des Malouines, puis la confrontation brutale contre les syndicats de mineurs.
Brutale, c'est le mot juste.
Mais nécessaire à mon sens. Si je devais utiliser une analogie, je dirais que ce thatchérisme de 1987, c'est comme une démolition architecturale réussie. L'État a été littéralement rasé pour bâtir une nation d'actionnaires. Il fallait détruire l'ancien pour construire le nouveau.
Attendez, cette démolition architecturale a laissé la moitié du pays sous les gravats.
Vous exagérez un peu.
Pas du tout. Vous célébrez le Sud, mais vous ignorez le North-South Divide, cette violente fracture géographique. Le Nord industriel, l'Écosse, le Pays de Galles, tous ont été frappés par des fermetures d'usines et un chômage de masse. Les conservateurs se sont durablement isolés dans ces régions.
Certes, la transition fut douloureuse. Néanmoins, ce coup de force a obligé l'opposition à s'adapter. Cette troisième défaite a forcé Neil Kellogg à écarter les radicaux pour moderniser le Labour. Ça a pavé la voie à Tony Blair.
La modernisation de la gauche, oui.
Et son héritage survit même en 2025. Les conservateurs l'invoquent, le Labour lui emprunte son vocabulaire économique, réforme UK s'en revendique. La matrice a été redessinée de façon permanente.
C'est un argument convaincant sur le long terme, mais avez-vous considéré que ce troisième mandat fut, dans l'immédiat, un cadeau empoisonné ?
Un cadeau empoisonné ?
Absolument. La certitude aveugle, née de 1987, l'a poussée à l'hubris. Elle a cru que tout le pays la soutenait et elle a imposé l'injuste poll tax.
Enfin, c'était un impôt qui visait à simplifier la fiscalité locale.
En remplaçant un impôt immobilière par un impôt forfaitaire par tête, un duc richissime dans son immense manoir allait payer exactement la même somme que le balayeur de sa rue.
C'est vrai que la perception publique a été désastreuse.
C'était une déconnexion totale et c'est ce qui a provoqué des émeutes historiques menant à sa destitution par ses propres ministres en novembre 1990. Ils étaient terrifiés par l'opinion publique.
Au final, on voit bien que 1987 illustre la dualité parfaite de l'ère Thatcher. D'un côté, une refonte économique incontestable qui suscite toujours une admiration institutionnelle, comme le rappelle souvent le Washington Times.
Et de l'autre, une déchirure sociale qui ne s'est jamais refermée. N'oublions pas les œufs jetés sur sa propre statue à Grantham le jour même de son inauguration en 2022. Le ressentiment populaire est toujours là.
Tout à fait. Ce qui nous ramène à notre réflexion de départ, et nous vous laissons le soin d'en juger. Est-ce que le pouvoir absolu, même largement validé par les urnes, porte toujours intrinsèquement les mécanismes de sa propre destruction ?
Une excellente question pour clore la discussion.
Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.